Alors vous êtes, je vous présente rapidement, vous rajoutez quelques éléments si je suis trop rapide. Donc vous êtes astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique de Saclay et vous êtes notamment l'auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique et vous donnez également des cours d'astrophysique ou d'autres cours scientifiques à des étudiants, que ce soit enseignement supérieur où j'ai vu aussi des classes d'initiation pour les élèves en primaire par
Absolument.
Exemple.
Absolument.
Très bien. Alors tout d'abord, je voulais vous demander, en tant qu'astrophysicien, d'où est venue votre passion en fait pour les sciences et pour les étoiles notamment, à quel moment
Alors ça s'est déroulé très tôt en fait dans ma vie, très tôt, relativement tôt. Je me suis passionné pour les étoiles vers 8-9 ans. On observe le ciel pendant les vacances d'été, on regarde le ciel nocturne, c'est beau. Enfin, c'est beau quand il n'y a pas de nuages, quand le ciel s'y prête, il faut être quand même dans des régions où il n'y a pas trop de pollution lumineuse due aux grandes villes. Et bien moi, c'est le cas dans l'Aveyron, quand j'avais 8-9 ans, dans les années 70. Et du coup, voilà, depuis, c'est une passion qui m'a jamais lâché, la passion du ciel en général et des étoiles en particulier.
D'accord. Et alors j'ai pu remarquer que vous aimez partager beaucoup vos connaissances, notamment justement par le biais des ouvrages que vous rédigez, que ce soit vers les adultes, mais aussi vers les enfants, avec par exemple les collections Les Mini-Pommes aux éditions Le Pommier, avec La Lumière à la Loupe ou Le Soleil Notre Étoile par exemple. Donc d'où vous vient cette envie de partage en fait de vos connaissances, de diffusion?
Alors je ne pourrais pas vous le dire, j'ai toujours eu grand plaisir à partager ce que j'apprends. D'abord j'ai une grande curiosité d'esprit, mais enfin je ne serai pas le seul dans cette situation. Mais j'aime bien aussi expliquer ce que j'ai compris, c'est depuis tout le temps, j'ai toujours aimé expliquer ce que j'avais compris, parce que j'avais eu grand plaisir à le comprendre. Alors c'est une sorte de partage d'un plaisir, comme on partagerait le plaisir d'avoir vu son équipe de foot favorite, ou d'avoir vu un film extraordinaire, enfin bref, de partager avec d'autres le plaisir qu'on a eu de voir, de faire, de comprendre, de lire des choses. Et c'est vrai que ce plaisir m'a jamais lâché, et j'ai commencé assez rapidement, en fait, après avoir été astronome amateur, après avoir été participant à des clubs d'astronomie, mais à des séjours, à des, comment on dit ça, des vacances, camps, des camps d'astronomie, voilà, des camps d'astronomie, je suis rapidement devenu animateur dans ces camps d'astronomie, et puis ensuite mes études sont poursuivies et j'ai pu rapidement aussi, finalement assez rapidement, commencer à écrire des chroniques dans la Revue pour la Science, puis après écrire des livres, et puis voilà, depuis ça ne cesse de se développer, ça s'arrête plus.
D'accord. Et donc justement, vous avez une façon un peu particulière, quand vous écrivez vos textes, vous utilisez souvent un peu d'humour, vous présentez les choses voilà, de façon simple, effectivement, pour tout le monde. Et est-ce que vous pensez justement que c'est plus parlant, ça permet de rendre plus abordable la science, en fait, à tout le monde?
Oui, je pense que c'est vrai que la science, elle est mal perçue, entre guillemets, ça veut dire, au sens, pas de la bonne façon, on la pense aride et difficile. Ce qui, évidemment, quand on la pratique au quotidien, quand on est en recherche, en ingénierie ou dans des travaux techniques sur la science, c'est effectivement un peu le cas. Ça peut être un peu aride, mais elle peut être présentée de façon aimable. La science n'est pas qu'une discipline aride, c'est une discipline aussi merveilleuse. C'est une discipline qui, finalement, enchante le monde, mais d'une façon très particulière, d'une façon scientifique, qui n'est pas la meilleure façon ou l'unique façon d'enchanter le monde. Mais en tout cas, c'est une façon de voir le monde d'une façon belle et d'une façon nouvelle et tout à fait parfois contre-intuitive. C'est en ce sens qu'elle peut être enchanteresse. C'est que quand on regarde ce qui se passe à des échelles de taille très petite devant la nôtre, à l'échelle du millimètre, d'une fourmi ou à fortiori à l'échelle des atomes, ou à l'inverse, quand on regarde ce qui se passe aux très très grandes échelles, alors l'échelle d'une planète, d'une étoile ou d'une galaxie ou de l'univers dans son ensemble, les choses sont finalement très différentes de celles qu'elles sont à nos yeux habituellement à l'échelle du mètre. De la dizaine de mètres ou de la dizaine de centimètres. Et donc, du coup, ne serait-ce que ce voyage dans les échelles nous montre un monde qui est radicalement différent et finalement nous fait voir le monde de façon un peu contre-intuitive parfois et donc très nouvelle. Et c'est cette chose de rendre la science aimable par le biais d'abord de l'enchantement et puis éventuellement par le biais de l'humour, mais ce peut être des artifices, on peut trouver d'autres façons de rendre la science aimable, le but ultime étant. Voilà, de la rendre agréable, de la rendre compréhensible, de la rendre enviable et qu'on ait envie de s'y intéresser.
justement, si on abordait peut-être plus simplement la science dans les cours, à l'école, de façon peut-être un peu plus ouverte, ça permettait peut-être à des jeunes plus facilement de s'orienter un peu vers...
Peut-être. C'est vrai que bon, la science telle qu'elle est enseignée dans les lycées, dans les collèges, elle est quand même un peu contrainte, parce qu'il y a, ne serait-ce que il y a des programmes, et puis c'est une science qui est une discipline comme les langues, comme le français, comme les mathématiques ou autres, et... L'histoire-géographie, il y a des programmes et il y a toujours une visée, malgré tout, un peu consumériste. Il y a un programme, il faut le respecter, et à la fin, il y a un examen qui va sanctionner si vous avez appris le programme ou pas. Donc, c'est une vision bon, qui est comme elle est et qui est effectivement pas forcément la plus favorable pour pratiquer la science. Moi, j'ai eu la chance de pratiquer les sciences, notamment dans ces camps d'astronomie. Et c'est vrai que c'était une façon tout à fait différente, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus hands-on, comme les Américains, ça veut dire on manipule, on observe, on fait des choses, on échange avec des gens, d'autres personnes, d'autres enfants, d'autres adolescents, qui ont la même passion et qui ont la même motivation. D'accord. Donc il y a, de ce point de vue-là, évidemment, tous les enfants dans une classe ne sont pas motivés de la même façon par les sciences. Dans un camp de l'astronomie, tous les enfants sont motivés.
On choisit, bien sûr.
L'astronomie, ils ne sont pas là par hasard. Donc voilà, ça, ne serait-ce que ça, indépendamment de leurs compétences en mathématiques ou de leurs connaissances particulières, qui peuvent être très diverses, parfois très faibles, parfois très grandes, ils ont un moteur commun qui est la passion pour la chose qu'ils sont en train de faire ensemble, en l'occurrence de l'astronomie, mais ça pourrait être des camps de nature, ça pourrait être des camps de géologie, ça pourrait être des camps de sciences en général. Donc voilà, je trouve que c'est la motivation, en fait, qui serait le lien commun, la motivation et l'envie d'apprendre, l'envie de découvrir, la curiosité qui serait le lien commun et qu'il faudrait effectivement motiver dès le plus jeune âge, dès l'école primaire finalement. Mais qui se fait en réalité puisque des initiatives comme La main à la pâte qui proposent aux enseignants d'intégrer de façon très intime l'enseignement des sciences dans leur classe de primaire, ce sont des initiatives qui ont pris une ampleur considérable depuis leur premier pas il y a un peu plus d'une dizaine d'années et qui maintenant... donne tout à fait satisfaction pour l'enseignement des sciences en primaire et pour la motivation des enfants à faire des sciences.
D'accord. Donc pour faire le lien justement, comme vous le faites, entre la science et la littérature, j'ai une question, est-ce que les scientifiques en général sont intéressés par la littérature de science-fiction? Est-ce qu'ils ont parfois le réflexe d'en lire ou d'essayer d'établir un lien?
Alors j'ai pas vraiment de statistiques fiables sous la main. Ce que je constate, c'est qu'effectivement il y a des scientifiques qui s'intéressent à la science-fiction, qui en lisent. Il y en a aussi qui n'en lisent pas et qui s'y intéressent pas, voire qui sont un peu, disons, méprisants, un peu réfractaires, méprisants. Mais ce serait la même chose dans le grand public où il y a des gens qui vont considérer que finalement la bonne littérature, c'est la littérature habituelle, les classiques, disons, et puis la science-fiction, c'est quand même quelque chose, c'est un peu un sous-genre un peu minable. Oui. Mais c'est un peu, bon, je pense que de ce point de vue-là, les scientifiques ne sont pas différents du grand public. Voilà, sont pas différents du grand public. Simplement, on constate quand même qu'il y a effectivement des scientifiques, malgré tout, qui aiment la science-fiction, qui en lisent. Et là où il y a un point qui est quand même, à mon avis, intéressant, c'est que la science-fiction a servi, disons, de sergent recruteur pour la science. Elle a... Par le souffle qu'elle impose, par le sense of wonder, comme on dit, par l'incroyable, parfois, et des spectaculaires débauches de moyens scientifiques au service d'une intrigue, la science-fiction a quand même motivé des vocations scientifiques, c'est tout à fait certain. Est-ce qu'on en a motivé une majorité? Je ne saurais dire, mais elle en a motivé. Il y a des scientifiques, et ils s'affichent plus dans les pays anglo-saxons qu'en France. Il y a des scientifiques qui reconnaissent et revendiquent le fait qu'ils sont venus à la science par la science-fiction. Moi, ce n'est pas mon cas. Je suis venu à la science, je vais dire d'abord. Enfin, d'une façon, j'ai d'abord eu du goût pour la science assez jeune. Et ensuite, je suis venu à la science-fiction. Mais du coup, j'ai trouvé dans la science-fiction la littérature qui me convenait en tant qu'esprit curieux et intéressé par les sciences. Donc, d'une certaine façon, c'est pas décorrélé, cette affaire-là.
D'accord. Et donc ça rapproche en fait la thématique d'une des conférences auxquelles vous allez participer en fait cette année, qui est la science-fiction est-elle un bon vecteur de vulgarisation scientifique? Vous allez en parler longuement tout à l'heure.
Alors,
donc,
alors évidemment la réponse est oui, c'est un bon vecteur, c'est évidemment pas le seul vecteur. De toute façon, la science-fiction, qu'elle le veuille ou pas, participe à la diffusion des connaissances scientifiques. Évidemment, c'est pas la source à laquelle on irait s'enseigner en premier chef pour avoir des informations scientifiques, parce que bien sûr la science-fiction prend certains faits scientifiques pour les nécessités de son intrigue et puis les déforme, les transforme, les amplifie, bon, des fois à un point tel que ça devient juste faux, après ça marche plus, ou ça ressemble plus vraiment à l'idée dont c'est parti. Enfin, n'empêche qu'elle part de la science, elle prend des objets de science ou de technique, et puis elle s'en sert pour son intrigue, elle les met en scène et elle interroge leurs conséquences sociales. Donc la science-fiction vraiment ne cherche pas à faire de la vulgarisation scientifique, mais en faisant ses actions d'écriture et de production cinématographique aussi, bien sûr, elle met des idées scientifiques sur devant de la scène d'une façon ou d'une autre. Alors ces idées sont parfois mal présentées, faussement présentées, mais elle les met devant. Et comme les gens construisent leur représentation du monde à partir de tout ce qui fait le monde, donc d'une part évidemment leur cursus scolaire, que quand ils sont adultes en général ils ont oublié, à partir de ce qui peut venir dans les journaux, ils ne parlent pas beaucoup de science, de ce qu'ils parlent à la télé, jamais, quasiment jamais. Il y a une seule émission scientifique à la télé qui est C'est pas sorcier, et puis c'est tout. Et voilà, donc s'ils lisent de la science-fiction, ça participe aussi à leur construction de leur représentation scientifique du monde. Surtout que maintenant, en particulier où la science-fiction elle est visuellement très bien représentée au cinéma par des films avec des spectaculaires, avec des images de synthèse spectaculaires qui peuvent d'une certaine façon remplacer le réel ou mimer le réel de manière si plausible que... elles peuvent remplacer le réel presque. Donc les gens se créent une vision, leur représentation scientifique du monde à partir de la science-fiction, entre autres, et de beaucoup d'autres choses. Donc la science-fiction participe à la vulgarisation scientifique. Moi, ce que je pense aussi, c'est qu'on peut utiliser, en tant que scientifique, physicien en particulier, mais ça serait vrai pour des chimistes, des biologistes, et même pour les sciences humaines, évidemment, on peut utiliser la science-fiction comme support pour parler de science. Et de prendre les images que la science-fiction crée, les histoires de la science-fiction, les intrigues de la science-fiction, les objets techniques dont elle s'empare, ou les objets scientifiques dont elle s'empare dans ces histoires, pour servir de prétexte à parler de science. Alors, premièrement, pour les analyser, savoir est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. En général, ça se finit mal, parce que, comme je vous disais, la science-fiction amplifie ou déforme des fois tellement la notion scientifique qu'elle en devient fausse. Donc, essentiellement, ça ne marche pas. Mais c'est pas le point. L'idée n'est pas de jouer les censeurs sur la science-fiction en disant « Ah oui, c'est tous des nuls, ils n'ont rien compris à la science ». C'est absolument pas l'idée. Mais c'est d'utiliser ça comme prétexte pour parler de science. Et donc pour se dire « Alors oui, ça ne marche pas, mais comment je ferais moi pour faire la même chose en restant scientifiquement plausible, scientifiquement crédible ?» C'est parfois possible, parfois ça ne l'est pas. Et l'autre chose que l'on peut faire aussi, c'est mener une enquête sur les mondes qui nous sont montrés. Et dans certains cas où, effectivement, l'amplification n'est pas trop énorme, on peut mener une enquête qui permet d'obtenir des informations sur le monde, par exemple la taille de l'étoile de la mort, ou la puissance du turbo laser de l'étoile de la mort, ou des informations sur la planète Pandora qu'on voit dans Avatar, ou des choses sur comment Superman pourrait fonctionner et quel est le métabolisme de Superman qui rendrait compte des pouvoirs qu'on lui prête, par exemple. Voilà, ce genre de questions qu'on peut se poser et auxquelles on peut apporter une réponse scientifiquement éduquée, fondée, et qui satisfait au mieux les contraintes de l'histoire que l'on analyse. Et donc cette partie d'enquête, voilà, me paraît la plus intéressante, en ce sens qu'elle prend comme point de départ donc la science-fiction, elle utilise les outils de la science pour analyser une situation, et on se place dans ce cas-là comme un chercheur, finalement, comme quelqu'un qui interroge le monde. Ce n'est pas notre monde, ce n'est pas notre réalité, c'est un autre monde, mais qui interroge ce monde pour en tirer des informations supplémentaires qui ne sont pas données a priori. Donc voilà, c'est en ce sens que je pense que la science-fiction peut être éminemment utile pour parler de science.
D'accord, c'est ce que vous faites notamment d'ailleurs dans SF, la science mène l'enquête.
Exactement, c'est la chose qui moi m'amuse beaucoup, que j'ai faite plusieurs fois donc dans ce livre donc que vous évoquez, et dans d'autres, sur Tintin. On peut utiliser donc la bande dessinée, mais il n'y a pas que Tintin évidemment, sur les super-héros en général et sur Superman en particulier, et puis aussi sur Star Wars, j'ai fait des conférences sur Pandora, sur les films de super-héros en général, sur l'astrophysique dans les films de science-fiction. Il y a beaucoup d'astrophysique, il y a des lunes, il y a des vaisseaux cosmiques qui vont d'une étoile à une autre, il y a des galaxies, des machins, enfin voilà, on peut parler un peu d'astrophysique aussi. Donc voilà, c'est toujours se servir, ce que j'aime bien faire, donc c'est se servir de la science-fiction comme prétexte pour parler de science, pour à la fois des contenus de la science, des faits scientifiques, des connaissances scientifiques, mais aussi pour parler des méthodes de la science, de la pratique scientifique, de la façon dont elle fonctionne et de la façon dont elle pose les problèmes dans le cas courant de la recherche, qui est notre réalité et non pas évidemment ces mondes imaginaires.
D'accord. Et comment vous sélectionnez, vous choisissez justement les œuvres, les livres, ou par exemple Star Wars, Tintin, que vous choisissez d'étudier?
Alors, je les prends avec deux critères essentiels, qui sont un critère de richesse. Est-ce qu'il y a beaucoup d'images, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments techniques, d'éléments scientifiques à discuter, donc de richesse de contenu finalement. Et puis deuxièmement, et peut-être même de façon prédominante, sur le fait qu'il soit connu ou pas. Il y a beaucoup d'œuvres de fiction littéraire, de romans, de science-fiction qui sont extraordinairement intéressants à analyser du point de vue de la science, mais qui sont malheureusement beaucoup moins connues que Star Wars, que Avatar ou que Superman. Voilà, c'est comme ça. Il y a des blockbusters, si j'ose dire, même en littérature de SF aussi, il y en a, mais il y a évidemment en cinéma, c'est évidemment le cinéma qui est le plus grand fournisseur de personnes connaissant ces œuvres de science-fiction et qui fournit aussi des images, hein, parce qu'au cinéma, évidemment, il y a naturellement des images, il y en a aussi dans la littérature, mais ce sont des images qu'il faut se représenter mentalement en lisant le texte, c'est plus difficile de la même façon que de regarder simplement ce qui se passe sur un écran. Et donc, je choisis plutôt des œuvres très connues qui doivent être assez riches, de sorte que quand je m'adresse à un vaste public, l'œuvre soit connue. Je ne passe pas les trois quarts de mon temps à expliquer l'œuvre. Alors, j'ai eu l'occasion de parler de science et de science-fiction devant un public beaucoup plus éduqué en science-fiction, de fans de science-fiction, de gros lecteurs de science-fiction. Là, c'est très plaisant parce que justement, on peut.
Ils connaissent bien les références.
Là, évidemment, les références, ça ne leur échappe pas. Ils connaissent bien sûr les références grand public, évidemment, mais ils connaissent évidemment aussi très, très bien les références plus. Plus de spécialistes, entre guillemets, plus de lectorat hardcore. Et là, c'est intéressant parce qu'évidemment, il y a des œuvres très intéressantes, beaucoup moins connues du grand public, qu'on peut aussi utiliser pour cette démarche, disons, scientifico-fictive.
D'accord. Et vous-même, dans le genre de littérature que vous lisez, est-ce que c'est vraiment uniquement de la hard science, le courant qu'on peut appeler, ou vous aimez bien également tout ce
Alors,
qui
justement,
est plus imaginaire
Assez curieusement, c'est pas la hard science qui est ma tasse de thé préférée, d'accord. Même si évidemment la hard science est assez intéressante pour un scientifique, enfin intéressante à analyser, parce qu'il y a beaucoup d'éléments techniques qui font même le cœur de l'intrigue très souvent. En fait, les œuvres qui m'intéressent le plus, de science-fiction qui m'intéressent le plus, sont plutôt les œuvres de spéculation sociale, des conséquences finalement des sciences, des techniques sur les sociétés. Voilà, c'est cette branche-là de la SF qui m'intéresse le plus. Mais j'ai du goût pour un peu tout. J'aime bien aussi l'Uchronie, j'aime bien le steampunk, enfin j'aime bien tout. Toutes les branches me conviennent bien, mais j'avoue un goût particulier pour celle qui concerne la spéculation sociale. La hard science, c'est vrai qu'il y a des œuvres qui sont aussi parfois où l'ambiance scientifico-technique est tellement prégnante qu'elle devient même devant les personnages, devant l'intrigue. Elle prend le pas. Donc ça rend les œuvres des fois un peu plus indigestes. Mais bon, il y a des gens comme par exemple Greg Egan qui, on peut pas dire qu'ils font, je pense pas qu'on pourrait les classer dans la hard science, mais dans certaines de ses œuvres, met en avant de manière très prégnante l'idée scientifique. Mais en même temps, il en a des conséquences humaines. Voilà, la science-fiction. Ça s'appelle science-fiction, mais c'est d'abord de la philo, c'est d'abord de l'humain. La science-fiction, c'est d'abord de l'humain, c'est d'abord une interrogation sur l'humanité, sur sa condition, sur les sociétés, et sur l'effet des sciences, sur tout ça, bien sûr. Mais c'est aussi, c'est d'abord de l'humain. Donc c'est cet aspect-là qui me convient le plus quand je lis de la science-fiction.
D'accord. J'ai vu que vous aviez écrit aussi Mission Caladan en collaboration avec Claude Eken, qui est une sorte de fiction scientifique romancée. Est-ce que vous avez en cours d'autres projets de ce type ?
Alors, avec Claude Eken, oui, on a écrit ce roman scientifique, on va dire, de la science-fiction, bien sûr, c'est de la science-fiction. Ça se voulait aussi didactique sans lettres, entre guillemets, c'est-à-dire expliquer beaucoup de choses sans que ça soit des aplats indigestes d'explications techniques et barbantes. On a beaucoup de notes sur la suite de Mission Caladan. Je ne sais pas si on le fera un jour, ni quand on le fera, mais on a effectivement déjà réfléchi à la suite de Mission Caladan, et il y a des notes. Donc c'est pas impossible. Voilà, c'est de l'ordre du possible.
D'accord. Et alors, pour revenir à des questions plus scientifiques, j'avais envie de vous demander quelle est la grande découverte scientifique, le grand projet qui vous a marqué particulièrement, que ce soit il y a longtemps ou que ce soit même actuel, quelque chose qui vous aurait marqué.
Alors, ce qui m'a marqué, moi, en tant que scientifique, c'est vraiment c'est la physique du XXe siècle. C'est la nouvelle physique, comme on pouvait l'appeler maintenant qu'il y a 100 ans, mais la nouvelle physique du début du XXe siècle, et les deux théories de la relativité et la mécanique quantique, qui sont, après son cursus universitaire, qui arrive bien après le bac, malheureusement, en mon sens, elle pourrait arriver plus tôt, enfin, en tout cas pour les rudiments, et qui fait que, voilà, on a vraiment l'impression de changer de monde, littéralement de changer de monde, et d'entrer dans une dimension qui est complètement contre-intuitive et qui permet d'avoir des spéculations incroyables.
Alors, cela m'amène à vous poser une autre question dans un angle un peu scientifique également. Comme vous le disiez justement tout à l'heure, on a toujours une perception très subjective de l'univers qui nous entoure, comme vous dites par exemple l'univers macroscopique ou ce genre de choses, ou même l'univers de l'espace-temps qui pour nous n'est pas toujours encore complètement compréhensible. Est-ce que vous pensez que dans les années à venir, on puisse avoir des découvertes ou des événements scientifiques qui nous permettent de mieux comprendre et d'avancer aussi dans notre compréhension de l'univers ?
Il y en aura certainement, parce qu'en réalité, quand on parle de notre compréhension de l'univers, on réalise en fait qu'on en sait peu de choses. Si on fait 100 ans en arrière, si on vient 100 ans en arrière, disons dans les années 1910, on ne savait pas qu'il y avait d'autres galaxies. On ignorait tout, à peu près tout, de la cosmologie scientifique, la cosmologie relativiste moderne. On ne connaissait que 8 planètes dans le système solaire. On avait une idée assez pauvre de planètes, même nulle en fait, de planètes en dehors du système solaire évidemment, mais même dans notre système solaire, une sorte de démographie de tous les objets, de tous les problèmes qui s'y trouvent. 100 ans après, il y a toujours 8 planètes dans notre système solaire, parce qu'entre-temps, on a découvert Pluton, qui était la 9e planète, puis qui a été déclassée, donc il y a toujours 8 planètes dans notre système solaire. Mais on sait qu'il y a peut-être une centaine de milliards de galaxies dans l'univers. Notre univers est en expansion accélérée. On a une idée plus claire d'où vient la matière qui nous constitue. On comprend beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas, la formation des étoiles, la structure des étoiles, la formation et la structure des galaxies, l'interaction entre les galaxies, la formation des systèmes planétaires, il y a des exoplanètes qu'on a observées. Enfin, la liste des choses qu'on a apprises en un siècle est absolument considérable. Mais si on regarde vraiment à l'échelle de l'univers, en réalité, on constate que toute cette matière visible, cette matière lumineuse, lumineuse à nos yeux, lumineuse à nos instruments, donc qui rayonne parfois dans des longueurs d'onde qui ne sont pas visibles à nos yeux, comme l'infrarouge ou les rayons X ou les ondes radio, eh bien, toute cette matière ne représente probablement que 4 à 5% du contenu masse-énergie d'univers, et que les 95 autres pourcents sont constitués d'une chose qu'on appelle matière noire, faute de mieux, et dont on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle cache, à quoi ça correspond. Voilà. Donc on est assez embêté pour dire sous quelle forme elle se présente, même s'il semble assez avéré qu'il y a besoin de cette masse supplémentaire pour expliquer la dynamique des objets d'univers, la dynamique d'une galaxie, ou la dynamique des galaxies dans un amas de galaxies. Donc ça, c'est compte peut-être pour 23 ou 25%. Et puis le complément, donc quasiment les trois quarts, c'est cette énergie noire qui motive l'accélération de l'expansion de l'univers, dont la découverte a valu le prix Nobel de cette année, de 2011, aux scientifiques qui avaient fait ces observations. Et cette énergie noire, donc pour dire tout, on ne sait rien. D'accord. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Donc ça veut dire, il y a dans 95%, il y a trois quarts de pas clair, il y a 20% de pas très net, et il y a 5% de à peu près compris, on va dire. Donc en réalité, on peut faire un bilan très positif du dernier siècle d'astrophysique, si j'ose dire, et de cosmologie, où on a appris un nombre évidemment considérable de choses, et en même temps, on a quand même l'impression qu'il y a le volume de notre ignorance a cru encore bien plus considérablement. Ce qui fait que la proportion de ce qu'on connaît par rapport à ce qu'on ne connaît pas, finalement, c'est... Ouais, exactement. On n'est pas beaucoup mieux qu'il y a un siècle. On est peut-être en train de se poser enfin les bonnes questions. Et après, il faut apporter les réponses. Donc voilà, c'est un bilan un peu mitigé. Mitigé, oui, qu'on peut balancer entre du très positif et du pas très clair, du un peu... Voilà, il y a encore du boulot. Donc on a encore du boulot, voilà. Mais c'est ça, la recherche en général, et la recherche en astrophysique en particulier. Il y a toujours plus de choses à apprendre, finalement, que de choses déjà connues.
Et donc une dernière question concernant la science, qui se rapporte à l'autre table ronde à laquelle vous allez participer, au sujet du voyage dans le temps et dans le passé, donc que la table ronde va poser, est-ce que ce serait possible ?
Ah oui, alors la réponse est non. Là, c'est la réponse courte. Enfin, la réponse est non, il faudrait préciser. La réponse est non dans le cadre de la science, dans le cadre de la science acceptée actuellement, qui fait consensus, qui fonctionne, qui est validée. Bon. Alors après, on peut imaginer ce qu'on veut dans le futur. Voilà, il semble qu'il n'y ait pas trop d'échappatoire de ce cadre actuel pour justifier ou pour mettre au point des voyages dans le temps. en particulier des voyages dans le passé. Des voyages dans le futur, on peut imaginer voyager dans le futur, c'est-à-dire partir de la Terre, revenir sur Terre, et qu'il se soit écoulé un temps différent, vous, dans votre vaisseau, et sur Terre. Ça découle, en fait, tout simplement d'une théorie de physique qui s'appelle la relativité restreinte, qui a été posée par Einstein en 1905. Si vous voyagez à une vitesse assez grande, assez proche de celle de la lumière, dans votre vaisseau peut s'écouler une durée qui sera différente de la durée qui se sera écoulée sur Terre. Et donc, vous pouvez passer 10 ans dans votre vaisseau, vous faites votre grand voyage dans l'espace à 99% de la vitesse de la lumière, vous revenez sur Terre, au bout de ce qui, semble-t-il, pour vous, a duré quelques années, et sur Terre, il s'est passé peut-être quelques centaines d'années. D'accord. Ce rapport entre les deux durées étant dépendant de la vitesse de votre voyage. Donc, on peut imaginer voyager vers le futur à sens unique, vers le passé. Ça nécessiterait de dépasser la vitesse de la lumière, si on reste dans le cadre de la relativité restreinte, ce qui est impossible, enfin, dans ce cadre-là, impossible, ou alors de manipuler des quantités de matière et d'énergie qui vous mettraient au niveau de l'Empire de Star Wars. Ça veut dire que vous êtes capable de manipuler un trou noir et de faire des effets un peu subtils avec, et qui vous permettraient de faire ce qu'on appelle des boucles temporelles fermées, donc de revenir sur vos pas dans le temps, tout en ayant l'impression d'aller toujours vers le futur. Et si vous êtes capable de faire ça, il y a des gens qui ont étudié un peu la question malgré tout. Donc ça reste dans un cadre d'une théorie assise, d'une théorie qui est la théorie de la relativité générale d'Einstein cette fois-ci, qui est une théorie de la gravitation. Si vous savez faire ça, vous construisez une machine à voyager dans le temps, mais en même temps, vous fabriquez l'équivalent gravitationnel d'un effet Larsen acoustique. Quand un son qui est émis par un haut-parleur est capté par un micro, qui est amplifié, réémis D'accord. par le haut-parleur, recapté par le micro, réamplifié, il y a cette boucle, ce feedback positif, qui fait que, c'est ce qu'on appelle en français une boucle de rétroaction positive, qui fait que ça diverge vers un son intense, strident et très désagréable, qui en fait est limité par la puissance que vous avez mis dans votre amplificateur de son, et donc ça ne crée pas un son infiniment puissant. Mais si vous aviez une machine temporelle, il suffirait qu'un peu d'énergie, de la lumière, rentre dedans, revienne dans le passé, rentre en même temps que ce qui est déjà rentré, ça en fait deux, et puis quatre, et puis huit. Vous voyez. Il peut y avoir une divergence comme ça. Et donc, du coup, certains se sont posé la question et ont répondu positivement, qui est, qu'est-ce qui se passe si je branche une machine dans le temps ? La réponse est, elle vous explose à la figure parce qu'il y a cette divergence énergétique qui peut se produire. Et voilà. Ça pourrait donc détruire la machine immédiatement après que vous l'ayez mise en fonctionnement. Et Stephen Hawking, un physicien anglais, a appelé ça le principe de protection chronologique. Donc voilà, je rentre un peu dans des détails techniques qui risquent d'assommer vos auditeurs. Pour l'instant, tout n'est pas perdu, mais c'est très 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 mal engagé pour la physique. Sans parler évidemment de la logique et des paradoxes que soulève l'âge dans le temps, qui sont eux pour le coup, qui peuvent aussi être rédhibitoires. Donc le voyage dans le temps, ça reste pour l'instant malgré tout un fantasme.
D'accord. Alors pour conclure, vous venez d'être nommé président des Utopiales et vous allez prendre vos fonctions l'année prochaine. Vous prendrez donc le relais. Pourquoi cet événement est si important pour vous, à votre avis, qu'est-ce qu'il peut apporter au public qui participe aux Utopiales ?
Eh bien d'abord du rêve, du sense of wonder. La science-fiction, c'est quand même un merveilleux laboratoire d'idées aussi. Je pense que il faut promouvoir la science-fiction. C'est évidemment un divertissement. Les gens qui viennent sont là aussi parce qu'ils aiment la science-fiction pour le divertissement et le plaisir intellectuel, le plaisir de lecture ou de voir des films qu'elle leur apporte ou des jeux vidéo. Enfin, il y a des tas de manifestations aux Utopiales, bien sûr. Mais il y a aussi, je pense que la science-fiction c'est un formidable vecteur d'idées, un formidable vecteur de réflexion, que ça soit scientifique bien sûr, mais social. Et donc du coup, moi j'aime la science-fiction pour ça en tout cas. Et c'est vrai qu'avec Hugo Bellagamba, qui est le délégué artistique, le nouveau délégué artistique des Utopiales, on a l'ambition de se servir de ce magnifique festival, de l'utiliser bien sûr pour le grand public, pour les familles, pour tous les gens qui aiment la science-fiction, pour le plaisir qu'elle leur procure, mais aussi leur montrer que la science-fiction, au-delà du plaisir qu'elle procure, qui est incontestable, c'est aussi un magnifique vecteur, un magnifique laboratoire d'idées. Et dans l'époque troublée où nous sommes, et dans le futur qui sera probablement aussi troublé, peut-être plus troublé encore, je pense que la science-fiction est un outil intellectuel, un laboratoire d'idées, une façon de réfléchir au monde qui est tout à fait unique, est tout à fait intéressante. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'aime la science-fiction, et c'est aussi pour ça que j'ai accepté d'être président des Utopiales, pour finalement montrer que la science-fiction, ce que font déjà les Utopiales, mais essayer encore de renforcer cette idée-là, enfin dans l'idée que j'en ai pour l'instant, mais ça peut-être va évoluer dans l'année qui va venir, montrer la puissance, au-delà de la puissance évocatrice de la science-fiction, montrer sa puissance intellectuelle, montrer sa puissance de réflexion et l'engagement qu'elle peut donner pour que les citoyens réfléchissent au monde qui les entoure par ce biais-là. Donc je pense que c'est une bonne façon de montrer au grand public, au public le plus large, des choses qu'il n'aurait peut-être pas vues s'il n'avait pas regardé, lu, s'il n'était pas intéressé à la science-fiction.
D'accord. Merci beaucoup, Roland Lehoucq.
Avec plaisir.